Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les attentoirs.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à l'émission Des Entonnoirs. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec la rubrique de Sophie, qui va nous parler des voyages pas chers. Ensuite, Nathalie.
Oui, bonjour à tous. Et ensuite, nous allons enchaîner avec Mathieu, qui va nous parler des secrets de Desperate Housewife. Ensuite, nous enchaînerons sur une musique avec Francis, musique de Serge Gainsbourg, Sensuelle et sans suite.
Alors, Sophie, la parole est à toi, on t'écoute.
Oui, bonjour. Alors, j'ai envie de parler des voyages pas chers, parce que il y a pas longtemps, je suis allée à Bruxelles et j'ai parlé avec une japonaise, Kinura, qui faisait un tour en Europe. Elle commençait à Bruxelles, ensuite elle allait à Cassel, et puis elle faisait un tour à Berlin. Et je me suis dit, mais ça serait pas mal de faire la même chose. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui était le plus accessible niveau financier pour voyager. Alors j'ai pensé déjà aux moyens de locomotion, il y a les compagnies aériennes pas chères. Si on réserve à l'avance, ça peut être vraiment accessible. Il y a les bus aussi pas chers. Et après, en niveau hébergement, il y a les auberges de jeunesse, ça peut être sympathique, ou bien le couchsurfing. Et c'est en fait une manière de se loger pas cher. On loge chez l'habitant qui nous accueille et on dort un peu sur son canapé. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensez, si ça vous fait peur un peu de loger chez quelqu'un que vous connaissez pas.
Alors moi j'ai entendu parler d'un petit peu de cette formule, inviter quelqu'un à la maison. Mmh. Et je pense que ça se fait de plus en plus. Je sais qu'au Canada, entre le Canada et la France, il me semble que c'est le Canada, ou le Québec et la France, il y avait des rapports très étroits par rapport à l'envoi à la réception de personnes ici en France. Et je pense que ça se fait de plus en plus.
Oui, c'est très populaire chez les jeunes.
C'est très populaire.
Oui.
C'est un moyen économique, en fait, Sophie, c'est ce que tu veux dire.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est plus convivial.
C'est plus convivial.
Mais après, il y a des... On peut tomber sur une personne désagréable ou une personne avec qui on s'entend pas ou...
Ou éventuellement un appartement ou une maison dans l'état, etc. Quoi.
Oui, il y a aussi les échanges de maisons. Ma tante avait fait ça, elle était partie à San Francisco, elle avait échangé sa maison à Paris. Et en fait, c'était étonnant parce que les personnes avaient laissé tous leurs vêtements et c'était assez surprenant. Donc c'est une autre manière de loger pas cher.
Blondine, tu as quelque chose à dire ?
Oui, moi je pense à deux formules qui existent déjà chez l'habitant. C'est un peu le système des chambres d'hôtes. C'est un peu ça.
Oui. Après, moi, à Paris, j'étais logée chez une personne en colocation spéciale parce que j'étais chez elle. Et moi, je trouve ça assez délicat parce que c'est elle est chez elle, donc elle dicte un peu ses règles, c'est moins sympa. Ça peut être un peu ennuyeux quand même. Genre, elle était maniaque, c'était horrible.
D'accord. Et sinon...
Et il y a le système en Angleterre qui est vieux comme Hérode, de bed and breakfast.
Mais tu peux nous expliquer un petit peu.
C'est le même système que les chambres d'hôtes. En fait, l'habitante loue une chambre. Généralement, ce sont quand même des grandes maisons où on est à l'écart de la famille et où on peut louer une chambre. C'est relativement cher, d'ailleurs, je trouve. On n'est pas loin du prix d'une chambre d'hôtel. Hein. Petit déjeuner compris.
Moi, je suis allé en Algérie. On n'avait pas réservé, puis on est tombé sur une annonce intéressante. Au lieu de payer 650 euros le voyage, on en est arrivé à 550 euros. Mais c'est vraiment le dernier moment, quoi. C'est les derniers billets les invendus, quoi. Plus ça, il y a des offres comme ça qui se mettent en place, les invendus, souvent en été, quoi.
Soit pour réserver très à l'avance, dernier moment.
C'est ce
genre de choses qui se fait beaucoup, d'ailleurs, sur Internet. Les dernières occasions, etc. D'ailleurs, faut aller assez rapidement parce que c'est très prisé les jeunes, etc., comme donc tu parlais tout à l'heure.
D'accord. Vous avez quelque chose à
rajouter ? J'ai lu ce week-end, je crois, ou vendredi, on peut partir, il y avait une offre sur le net, par exemple, puisqu'on parle de ça, à Prague, pour moins de 100 euros pour un week-end. C'est quand même très intéressant. Ouais. Alors, par contre, mea culpa, je ne sais plus du tout comment.
Moi, j'ai vu des compagnies aériennes qui proposaient des billets à 14 euros, 19 euros, pour Porto, par exemple. Aller simple, mais l'aller-retour, en fait, c'est un peu plus cher parce que ton billet de retour est plus cher. Parce qu'il est... Enfin, mais l'un dans l'autre, voyager pour 15 euros en avion, c'est pas cher.
Non, pas du tout.
Mais est-ce que quelqu'un déjà ici a pris un billet et a fait un voyage avec une de ces compagnies low cost, Ryanair, EasyJet, tout ça ?
Oui, moi j'avais voyagé avec Sky Europe, mais ça n'existe plus à Innsbruck. Et en fait, c'est comme une compagnie normale, il n'y a pas de soucis, rien n'est auto-rabais.
Et surtout, il faut se méfier avec certains voyages dans un hôtel 2 étoiles, une étoile et tout. Ça peut être les chambres en vestige, en ruine et tout. Il y a des pièges partout.
Et c'est vrai que les voyages, moi on a une amie qui voyage énormément et qui part très tôt le matin, qui passe la journée à Venise, à Rome, à Milan et qui revient le soir. Donc c'est vrai que c'est une journée très difficile. Elle se lève à 2-3 heures du matin puisqu'il faut prendre souvent ses Charleroi les pour le départ. Mais effectivement, elle passe une journée sur place. Alors Barcelone, je sais qu'il faut au moins 2 jours sur place parce que c'est plus long par rapport aux horaires d'avion, mais elle a jamais eu de soucis, elle le fait fréquemment et c'est vrai que c'est une journée usante mais une merveilleuse journée.
Moi j'ai déjà pris l'avion avec mes parents, c'est à Glazur parce que là-bas c'est l'avion d'Algérie parce que ça Tari avait raison parce que ça coûte 5000 euros par 3 billets, ça coûte très très cher et ça dure 3 mois pour voyager.
Merci Brahim.
Sinon, moi j'ai voyagé aussi à Paris en covoiturage, c'est très bien. Mais je sais plus, il y a un numéro, je l'ai plus fait.
C'est Autopass,
Autopass.
Me semble, oui.
Est-ce
Autopass.
Que tu connais le numéro, ce serait
non,
intéressant.
Non, j'ai pas du tout le numéro, parce mais que, en fait, ça existe sur l'île.
Ouais. On appelle ce numéro et ils disent quand on fait un rendez-vous et on va à Paris. Déjà Paris, c'est déjà bien.
J'ai déjà fait.
Le TGV, c'est combien le TGV à Paris pour aller à Paris ? 59 minutes, je crois.
Ça dépend à quelle date tu le prends, c'est ça,
ouais.
Surtout.
Mais à mon avis, c'est plus cher le TGV que le voiture.
On peut voyager futé, par exemple, près d'ici, la côte d'Opale. Bon, ça, prendre le train pour 1 euro, 2 euros, 3 euros et tout... Profitez-en.
C'est ce qu'on a fait avec notre groupe d'entraide mutuelle. On a pris les TER, ça, il y a ce qu'on appelle les TER verts, les TER mers. Verts pour aller à la campagne, dans les bases de loisirs, etc. Et mers pour aller à la mer. On paye 1 euro, là, des retours. Donc, on a des prix attractifs, quoi. Ça nous fait des petites sorties intéressantes, je pense.
Et en parlant d'un euro, cet été, j'ai vu un vol aller-retour pour Budapest pour 1 euro.
Incroyable ça.
Incroyable.
Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Blandine. Qui dit mieux ?
Non, moi je pars tout de suite ce prix-là.
D'accord.
Moi je voulais dire que sur ces billets low cost, en fait, c'est intéressant, mais il faut se méfier de plein de petits pièges. Par exemple, si tu emmènes des bagages, t'as 40 euros ou 60 euros en plus. C'est pour ça que c'est bien de faire des voyages très courts. Hein. Parce que comme ça, t'es pas obligé d'emmener des bagages. Tu prends que en cabine et puis c'est tout. Mmh. Et tu te fais facilement avoir, en fait, avec des correspondances qui se font pas aussi au retour, où t'as des avions impossibles à prendre au retour et t'es obligé de prendre un billet plus cher pour le retour.
c'est forcément un aller simple à ce prix-là.
Oui. Ah bah oui.
Non, ça existe non, à aller-retour. Parce
non,
que
non, il y a aller-retour. Voilà, il y a aller-retour. Il faut savoir aussi que les services pendant le vol sont payants. Si tu as soif ou tout ça, enfin bref. Donc, autant, comme il dit François, ne pas avoir de trop longs trajets. Donc comme ça, bon, bah, c'est tout. Bien sûr, dans ton bagage à main, il est hors de question que tu mettes une bouteille. Donc, hein, et c'est que 10 kilos. Ouais. Voilà, et ça doit rentrer dans le truc. 10 kilos, Ryanair, c'est 10 kilos.
Et ça dépend des compagnies, parce que cet été, moi, c'était 6 kilos, vous voyez. Donc je pense que d'une compagnie à l'autre, c'est très variable.
Et pour éviter de vous faire avoir, il faut mieux aller dans les agences de voyage. Pas vous faire avoir...
Non, mais c'est pas vrai, le même non, prix.
Disons que dans les agences de voyage, c'est beaucoup plus cher.
Bah, voilà.
Ce qui est pas mal non plus, c'est le voyage en car. Parce que, bon, c'est vrai que c'est fatigant, c'est plus long. Hein, mais aller jusqu'en Espagne en car, ça vous fait la possibilité de voir, il y a des pauses de toute façon, mais de voir aussi, par exemple, tout le paysage français, une partie du paysage espagnol. Vous ne conduisez pas, bon, c'est vrai que c'est plus fatigant, mais les bus sont relativement confortables en général. Hein. Bon, après, c'est suivant le temps que vous mettez pour le voyage, mais ça peut être agréable.
Et c'est fatigant.
Ah oui, c'est fatigant, ouais, ça c'est clair.
Oui, sans compter qu'il y a des voyages en car qui sont organisés pour toutes les destinations.
Juste une anecdote avant de laisser la parole. J'avais fait un voyage comme ça en car en Espagne, j'étais parti de Lille, un truc qu'on avait gagné avec un pote. On était parti de Lille, on pensait qu'on allait arriver relativement dans longtemps en Espagne, mais alors là, pas à ce point-là, puisqu'on a fait Lille, Binche, Bruxelles, la Louvière, le Luxembourg, enfin voilà, il était parti de Lille et on s'est tapé plus de 30 heures de bus. Donc, faut se méfier quand même.
Ah bah, t'as vu du paysage, hein ?
Margot, vas-y.
Oui, ben moi, je reviens sur Tar qui parlait d'aller voir des agences. Ben moi, je trouve que... Je veux dire, franchement, moi, je vais voir des agences pour quand je pars. Parce que je trouve que quand même, il y a une sécurité. On est plus en sécurité. Et puis, il y a quand même les assurances qui sont dedans. Faut quand même le dire. Il y a le rapatriement. Si vous arrive quelque chose et tout ça... C'est compté dedans. Moi, franchement, je ne partirai pas en bas de gamme, je le dis franchement. Parce que moi, déjà, j'ai peur des avions, déjà. Moi, je préfère être en sécurité avec des agences qui sont quand même réputées que partir comme ça. Mais non, moi, je trouve que les agences sont très, très bien. Moi, je pars avec Ekerman et j'ai jamais eu de problème. Et je suis bien protégée niveau de rapatriement et tout ça. S'il m'arrive pas de problème... Moi, je trouve que c'est plus intéressant, quoi, pour moi, personnellement.
Je me permets, Margot, pour l'assurance rapatriement, si tu as une assurance voiture ou une assurance maison, bien souvent, tu as déjà l'assurance qui est comprise dans rapatriement.
Oui, c'est vrai, ça. Oui, mais moi, j'ai pas de voiture, mais c'est compté déjà dedans. Voilà.
D'accord. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Oui ? Oui,
moi, je voulais rebondir un petit peu sur le Bed and Breakfast dont Blandine parlait, parce que je pense que c'est le premier week-end d'octobre où il y a toute une liste de gîtes de France qui cassent les prix. Vous pouvez avoir jusqu'à 75% sur le prix dans toute la France.
D'accord. Bon. Alors,
merci.
On va passer à la suite, Nathalie.
Oui, alors nous allons continuer donc avec Mathieu qui va nous parler des secrets de Desesperate Housewife.
Desperate Housewife.
Voilà, parfait.
Avec l'accent.
Yes. Vas-y.
Alors, anecdote, potin, actu, voire secret inavouable autour de Desperate Housewife et de son tournage. Donc, tout le monde connaît la célèbre série réalisée par Marc Cherry, donc qui raconte les histoires de Lynette, Brie, Suzanne et Gabrielle. Leur vie monotone parfois, mais il se passe toujours un truc dans Desperate Housewife, donc bon. Voilà, on va commencer avec le secret de Rex. Donc, Marc Cherry a toujours été très protecteur sur les sujets que renfermait, sur les secrets que renfermait chaque saison et chaque personnage, si bien même que les acteurs ne savent pas à l'avance le dénouement des intrigues. Donc, une situation un peu gênante pour les acteurs qui ne savent pas toujours et qui souffraient de cette situation. Quand Marc Cherry l'encourage à réfléchir plus profondément à son personnage, Steven Cup, donc c'est Rex, trouve l'une des idées qui marquera la saison 1, à savoir son penchant sadomasochiste.
Alors, une autre Desperate Housewife, c'est la Laura Bush, la First Lady américaine, qui a fait part de son intérêt au cours d'une cérémonie pour la série, et avouant même ne jamais rater un épisode. Donc ensuite, Danny Elfman est le compositeur de la musique du générique. Très prisé à Hollywood, il a aussi signé la partition de la plupart des films de Tim Burton, Sleepy Hollow et dernièrement Charlie et la chocolaterie. Une autobiographie de Marc Cherry. Le créateur de Desperate Housewives aime à rappeler que certains personnages, répliques et détails proviennent de sa propre vie. Ainsi, Brie est directement inspirée de sa propre mère et elle prononce une réplique. Dans la série, je t'aimerais même si tu étais meurtrier. Et en fait, c'est sa mère qui lui avait même dit au cours de son 31e anniversaire. Une citation perdue. Lors d'un épisode, Andrew, le fils de Brie, regarde la télévision. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde Lost. Sous influence, pour Desperate Housewives, Marc Cherry avoue s'être inspiré de Edouard aux mains d'argent pour le look de Wisteria Lane et de Boulevard du Crépuscule pour la narration en voix off d'un personnage mort. Des succès à la chaîne. Avec Lost et Desperate Housewives, le network américain ABC a tenté le pari de la nouveauté et de l'audace à la rentrée 2004. Pari réussi puisque les deux séries ont eu un énorme succès. Tout le monde veut être une Desperate Housewife. Marc Cherry aurait décliné une offre des plus excitantes. Britney Spears aurait fait part de sa volonté de s'installer aux côtés de Wisteria Lane. Sans succès, Marc Cherry est gardien du temple. Les risques du métier. Pour le tournage d'une scène où elle devait tomber sur un gigantesque gâteau de mariage, Terry Hatcher s'est cassé deux côtes. Alors on pourrait se demander si elle ressemble vraiment à son personnage. Recyclage des décors. Le décor de la maison dans laquelle Brie et sa famille vivent n'a pas été spécialement créé pour la série. Il s'agit en fait du même décor que celui de la maison familiale de la série Providence. Caprice. Felicity Hoffman a dans un premier temps refusé le rôle de Lynette. Elle ne voulait pas passer par la phase de casting, mais se voir carrément offrir le rôle. Son agent a finalement su la convaincre de passer le casting et elle a obtenu le rôle tant Marc Cherry a été impressionné par sa prestation. Ensuite, une jolie histoire. Une fan de la série aimait tellement la robe que portait le personnage de Gabrielle dans le pilote qu'elle a écrit à la production pour savoir qui en était le couturier. Elle voulait la porter pour son bal de promo. Touchée par son histoire, les producteurs ont décidé de lui envoyer la robe qu'elle a ensuite pu porter à son bal de promo. Un petit hommage. Kevin Murphy, un des scénaristes de la série, a souhaité rendre hommage à un de ses très chers amis avec qui il a travaillé sur les séries Code Lisa et Chérie, j'ai rétréci les gosses, en reprenant son nom pour nommer l'un des personnages. Ainsi, le boss de Lynette s'appelle Ed Ferrara, comme le scénariste. Elle a refusé le rôle de Brie. Dana Delany avait décliné l'offre qui lui avait été faite pour interpréter le rôle de Brie, estimant que le personnage était trop proche de celui qu'elle a joué dans Pasadena. Elle ne voulait pas refaire la même chose. Cela n'a pas empêché 4 ans après de revenir sur sa décision et d'accepter le rôle de Catherine, pourtant très proche de celui de Brie. La reine Oprah. La célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey aime tellement la série qu'elle a eu l'idée de faire un épisode spécial de la série d'une quinzaine de minutes pour son talk show. Elle y jouait une voisine des Housewives qui découvrait tous leurs secrets. Elle s'en mord les doigts. Quand Marc Cherry a démarché les chaînes de télévision avec le script du pilote, aucune n'en a voulu. Ça n'est que lorsqu'il a présenté la série comme un prime time soap qu'elles s'y sont intéressées. Aujourd'hui, elles doivent s'en mordre les doigts, surtout Lifetime et HBO, à qui le projet avait été présenté en premier. Talent de persuasion. Lors de son audition, Eva Longoria a su convaincre Marc Cherry de l'engager avant même qu'elle ait lu son texte. Nombre de scènes. À noter que chaque épisode de la série contient environ 60 scènes. Marc et Andrew. Pour créer la famille Van de Kamp, Marchéry, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est très fortement inspiré de sa famille. En effet, la mère du créateur est très maniaque, tout comme Brie, et lui ressemble un peu à Andrew puisque son père est mort et il est homosexuel. Ensuite, immatriculation. Tous les véhicules visibles dans le feuilleton sont immatriculés NRJ et un numéro. Il existe cependant des véhicules immatriculés autrement, comme le pick-up de Mike Delfino. Pour les quelques kilos en plus. Pour les besoins de la saison 5, les producteurs ont demandé à la sublime Eva Longoria de prendre du poids. En effet, dans cette nouvelle saison qui se déroule 4 ans après la précédente, elle est une mère de famille. Donc pas d'heureux événements pour notre chère housewife. Voilà, c'est fini pour les secrets de Desperate Housewife.
Merci Mathieu.
Merci beaucoup Mathieu. Donc maintenant nous allons passer la parole à Francis pour la pause musicale. Et donc nous allons écouter aujourd'hui un morceau de Serge Gainsbourg. Tu nous en dis un peu plus Francis ?
Bon, c'était pas prévu que je prenne la parole, donc j'ai un petit peu pris de court. Mais bon, j'ai choisi ce titre parce qu'on voit en Gainsbourg que le Gainsbar.
Oui.
Alors qu'il a fait des choses beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ces premiers titres, là, j'ai un CD sous la main, quoi. C'est du jazz au départ, quoi. C'est super. D'accord. Quoi. Mais c'est vrai qu'on voit quand en Gainsbourg le Gainsbar, ce qui est bien dommage, quoi.
Voilà. Et donc le morceau que tu voulais qu'on écoute, donc c'est bien Sensuel et Sans Suite.
Oui, c'est ça. T'es de l'album Vue de l'extérieur. D'accord.
C'est parti. Merci pour ce très beau morceau. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Non.
Et Gainsbourg, c'était lui qui voulait. Enfin, c'était lui qui faisait ses arrangements musicaux. C'était lui qui
comptait. Oh, oui, il faisait. Oui, tout. Paroles, musique, tout. Bon, il y a certains titres qui se sont inspirés de beaucoup de musique classique. Bon, mais c'est lui qui faisait tout, quoi. Bon, même pour d'autres, surtout des chanteuses d'ailleurs, beaucoup, il a fait écrire beaucoup, notamment, bon là ici, j'écoute beaucoup du Birkin, que je trouve, c'est génial, quoi. C'est la patte Gainsbourg, mais Gainsbourg, pas Gainsbourg, que bon, malheureusement, c'est. Ouais. C'est dommage.
Blandine.
Oui, moi je connaissais pas cette chanson, et très bon choix.
Elle
est très bien.
Ah, oui. Merci. Il y en a d'autres, c'est très très dur, c'est très dur de trouver un titre.
Je sais pas si tu connais Rock Around the Bunker.
Bien sûr.
J'aime bien le. En fait, il se prend pour Hitler et il dit : j'entends des voix off qui me disent Adolphe, tu crois à la catastrophe ? Je me lis bof. Tout ça, c'est du bluff. Mmh. C'est super marrant. En fait,
Oui, c'est vrai que bon, Gainsbourg, ça.
Quel talent.
Et donc, merci pour ce très beau morceau. Bien, on vous dit au revoir et merci encore. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Bonjour, monsieur Lacoste.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter et dire un petit peu ce que représente l'Observatoire Régional de la Santé ?
Donc, je suis Olivier Lacoste, je suis le directeur de l'Observatoire Régional de la Santé, depuis un bout de temps maintenant. L'Observatoire Régional de la Santé travaille sur des études sur l'état de santé de la région Nord-Pas-de-Calais et principalement dans un espoir d'apporter des éléments utiles à tous les décideurs de la santé publique dans le Nord-Pas-de-Calais.
Et par rapport à votre bilan, par rapport à cette journée, quel est-il par rapport au thème le corps et la santé mentale ?
Alors nous, bien qu'en étant compagnon de route de la Fédération de recherche en santé mentale, on s'est plus inquiété de tout ce qui était santé du corps. Ceci dit, on sait pertinemment que on a, et c'est la pertinence du propos de la journée, un lien très fort entre la santé mentale et la santé physique. Si vous voulez, c'est comme si nous, l'ORS en Pas-de-Calais, on était plus l'ORS de la santé du corps, de l'Observatoire du corps, et que la Fédération de recherche en santé mentale, c'était l'autre aspect. Donc, mais ceci dit, le bilan, il est le même. Que ça soit la tête ou le corps, on est dans une situation régionale de la santé qui est préoccupante, qui est pas bonne. Hein. On est la dernière région de France. Les études que sort la fédération montrent qu'il y a des gros problèmes aussi sur la santé mentale. Le propos que moi j'ai abordé aujourd'hui, c'était plus de dire que oui, il y a des gros problèmes, mais que on ne démérite pas. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui s'améliorent dans la région et qui s'améliorent aussi vite que le reste de la France et dans certains secteurs plus vite même. Ce qui est un bon signe, puisqu'on avait l'impression que finalement, dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y avait pas grand-chose qui évoluait, qu'on était condamné à avoir une santé difficile.
Et je voulais savoir, vous faites un bilan, vous tirez un bilan, mais est-ce que vous avez aussi des propositions à faire par rapport à cet état des lieux, quoi ?
Alors oui, quand on nous demande gentiment, comme vous venez de le faire, on fait des propositions. La première proposition, c'est une meilleure organisation. Une meilleure organisation du système de santé, pas que du système de soins, mais une meilleure amélioration, une organisation du système de santé. D'autant plus que les évolutions de la loi, l'application de la mise en place de la loi hôpital, patient, santé et territoire permettent beaucoup mieux potentiellement organiser les choses. Bon, maintenant, les choses sont plus faciles à organiser, il reste encore à les organiser. La deuxième chose, c'est de plus s'inquiéter de pas voir la population du Nord-Pas-de-Calais comme un tout, mais d'essayer de travailler sur les phénomènes d'inégalité. Et le troisième point, c'est de beaucoup plus tenir compte des vraies attentes de la population. mener une politique de santé dans la région, ça n'est pas que appliquer les grands plans nationaux qu'on nous demande d'appliquer. C'est aussi voir est-ce que la population comprend et surtout qu'est-ce qu'elle veut. Quitte à lui expliquer,
absolument.
Ça on ne peut pas le faire, on ne pourra pas, ou alors oui. Mais je pense que la grosse évolution, ça sera la prise en compte de la parole et des attentes de la population, qu'il soit patient ou qu'il ne le soit pas. Hein. J'aimerais bien parfois que cette population soit un peu moins patiente et qu'elle soit plus impatiente par rapport aux effets des politiques de santé dans notre région.
D'accord, bien, on vous remercie.
Pouvez-vous vous présenter tout d'abord ?
Alors, bonjour, je suis docteur Isabelle Poirot, je travaille donc au CHR de Lille en psychiatrie, où je suis responsable de l'unité de sommeil, en fait, de psychiatrie, et également au centre hospitalier de Valenciennes, où je suis également responsable de l'unité de sommeil du service de neurophysiologie clinique.
Mmh. Moi, j'ai une remarque tout de suite en parlant du sommeil, c'est que moi, je sais que quand je dors, je prends instinctivement la position du fœtus.
Oui, on a tous notre position de sommeil idéale. Hein, oui.
Et moi, j'ai fait un poème, j'ai fait un poème de 30 ans. C'est-à-dire que quand on dort, on repose son corps physiquement et on repose l'esprit, c'est évident. Mais on revient dans le temps, on retrouve le ventre de la mer, j'ai l'impression aussi. Que pensez-vous de...
Oh, ben je pense...
Et pourquoi avoir choisi cette spécialité sur le sommeil
C'est un domaine que j'ai rencontré au cours de mes études qui m'a passionnée parce que c'est le lien direct entre l'âme et puis le psyché et puis le corps, hein, puisque on est vraiment dans une frontière et qui est passionnante. Mmh.
Par rapport au phénomène, par exemple, du rêve ou du cauchemar,
oui.
que avez-vous des choses à dire par rapport à ça ou...
Alors, les rêves, on rêve à peu près 5 à 6 fois par nuit, hein, sauf qu'on ne s'en souvient pas. Donc, c'est lié à un sommeil très spécifique qui s'appelle le sommeil paradoxal et qui survient toutes les heures et demie quand on termine nos cycles de sommeil. Donc, rêver, c'est physiologique, hein, c'est normal. Par contre, les cauchemars sont des rêves ratés parce qu'ils sont très angoissants. Et donc, c'est souvent parce que ben, y a un conflit psychologique sous-jacent qui fait qu'on va faire des rêves très angoissants et qui peuvent nous réveiller. Et ces éveils sont souvent très désagréables. Et donc, dans ces cas-là, le traitement et surtout la psychothérapie et le travail en fait sur les conflits psychologiques auxquels on peut être confronté.
J'ai une anecdote à vous raconter en parlant de ta rêve. C'est très rigolo d'ailleurs, parce que vous allez rire. C'est qu'il y a une nuit, je rêvais que quelqu'un me barrait la route et on se battait. Et puis je lui donnais un coup de poing. Et j'ai donné un coup de poing et la pile de disque qui était après de ma table de chevet, elle est tombée. Et j'ai voulu mon rêve carrément, si vous voulez quoi. Donc est-ce que ça peut arriver ou...
Alors ça peut arriver. Donc par contre, si c'est répété, en général, il faut faire un enregistrement de sommeil pour être sûr que le sommeil paradoxal se déroule tout à fait correctement, parce que par exemple on pourrait faire des apnées du sommeil, donc c'est des arrêts respiratoires la nuit qui pourraient expliquer que d'un seul coup on ait un mouvement brutal à un moment où normalement on ne doit pas bouger. Donc si ce genre de choses se répètent, il faut consulter des unités de sommeil pour pouvoir faire un enregistrement de sommeil.
Oui, par rapport à ça, comment dire, c'était dans, je vivais le rêve, c'était dans.
Oui, tout à fait, oui.
Oui. Mmh. Et moi, par rapport à ça, ma psychiatre m'a conseillé de, je souffre d'apnée du sommeil.
Oui.
Le ronflement qui me réveille. Donc,
voilà.
Donc par rapport à ça, il paraît que ça peut se guérir.
Ah, tout à fait, oui. Alors le traitement est difficile puisque on utilise une machine qui aide à respirer la nuit, et donc c'est un masque qu'on doit poser sur le nez, qui n'est pas forcément très très agréable, mais qui sont maintenant, les masques sont vraiment très confortables, donc on s'y habitue. Et d'autre part, ces petites machines ne font pas de bruit. Donc globalement, il ne faut pas être réticent et ne pas au moins essayer à se traiter, parce que ça se traite très bien.
Encore une question, comment se fait-il, enfin, je crois qu'on est, par rapport au sommeil, il n'y a pas d'égalité, c'est-à-dire que des gens ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres moins, enfin voilà quoi.
Oui,
c'est...
tout à fait. Il y a un caractère génétique au sommeil qui fait qu'on va avoir des petits, des moyens, des gros dormeurs. Donc les moyens dormeurs, c'est 7-8 heures de sommeil, les petits dormeurs, c'est 6 heures, les gros dormeurs, c'est 9-10 heures en moyenne. Et vous allez avoir aussi une deuxième caractéristique qui va être qu'il y a des gens qui sont plutôt du soir, donc plutôt en forme en soirée et plutôt couche tard. Et par contre, des gens qui vont être plutôt du matin, donc plutôt en forme le matin, que ce soit au niveau physique que intellectuel, et qui vont être des lève-tôt. Et puis, il va y avoir les intermédiaires, donc qui sont ni du soir ni du matin.
Et dans le sommeil, entre l'homme et la femme, est-ce qu'il y a égalité par rapport au sommeil entre l'homme et la femme?
Alors, la petite différence qui existe, c'est que les femmes sont plus sensibles au bruit. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et d'autre part, elles ont un problème d'insomnie qui est quand même beaucoup plus fréquent.
Et puis enfin, il y a une fonction sociale qui fait que l'homme, ça interfère sur son sommeil, parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, par exemple, le travail de nuit.
Alors, le travail à horaire décalé pose des soucis de sommeil qui sont connus des médecins du travail en général. Mais c'est vrai que dormir en dehors d'heures qui normalement sont dédiées au sommeil ou à l'éveil font qu'il y a un déséquilibre de toute façon. Donc, il y a des petits moyens, notamment d'hygiène de sommeil qu'on peut proposer en fonction du travail à horaire décalé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué, et le travail à horaire décalé existe pour des raisons économiques et pas forcément pour la bonne santé humaine.
Bah écoutez, on vous remercie au docteur.
Mais je vous remercie pour votre invitation.
On n'a pas été trop ronflant, ça a été...
Pas du tout. Merci beaucoup.
Bonjour docteur.
Bonjour messieurs.
Pouvez-vous vous présenter ?
Alors je suis le docteur Jacques Cato, donc je travaille sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. J'ai un mi-temps public sur le secteur de Liévin. L'hôpital de rattachement, c'est les Marronniers à Bully-les-Mines, donc ça dépend de la NAC. Et j'ai un mi-temps privé à la clinique de l'Escrebieux dans la région de Douai.
D'accord. Alors je voudrais savoir quel lien faites-vous entre la médecine du corps et la médecine psychiatrique ?
Je pense que longtemps on a laissé de côté la médecine du corps et on n'a pas eu raison de le faire. Parce que je pense que le retour d'expérience qu'on aura tout à l'heure va montrer que quand on s'intéresse au corps, finalement l'esprit va mieux. Mmh. Un esprit sain dans un corps sain, il faut absolument cultiver le corps sain pour favoriser le fait d'avoir un esprit qui fonctionne mieux.
Et selon vous, qu'est-ce qui a causé cette perte de vitesse, en fait, le fait qu'on ait laissé de côté le corps, l'entretien du corps, ce sont des effets de société,
Alors je pense que ça remonte à très loin. D'abord à Descartes, qui avait complètement séparé le corps et l'esprit, en disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'interférence entre les deux. Et ensuite, à la nature dont les études de médecine étaient faites jusqu'à présent. À savoir qu'on avait séparé un peu depuis 1968, depuis les événements de 68, par exemple la neurologie et la psychiatrie, donc la médecine et la psychiatrie. Ce qui fait que les psychiatres, il faut le dire, sont de très mauvais médecins du corps, d'accord. Et que malheureusement, nos patients ont payé ce prix-là également, je crois qu'il faut le dire en toute honnêteté.
Et je présume que vous recevez des personnes qui souffrent de problèmes du corps et qui ont des problèmes psychiatriques. Mais, absolument. Et que préconisez-vous pour qu'on aille mieux psychiquement, enfin au niveau du corps, peut-être un petit peu de sport ou...
Alors moi je pense qu'on va devoir déjà complètement réinventer la façon de prendre en charge les malades. C'est-à-dire qu'on a ces dernières années déjà introduit des médecins généralistes dans les hôpitaux et dans les cliniques, ça c'est très très important. Mais il faut aller encore plus loin et il faut que les psychiatres apprennent à travailler avec les médecins généralistes de leurs hôpitaux, mais aussi avec les médecins généralistes de l'extérieur, y compris en incluant les spécialistes, etc. Donc on va devoir peut-être inventer quelque chose qui ressemble à un réseau de soins pour mettre en route des soins somatiques valables.
Docteur Brochard de Douai avait trouvé une idée intéressante, c'est que finalement il voulait, lui c'est la théorie je crois de me rappeler si on l'avait interviewé à Douai, c'est mettre la santé psychique à l'intérieur de l'hôpital général quoi. C'est-à-dire que pourquoi séparer les hôpitaux psychiatriques des hôpitaux, est-ce que je conforte votre opinion quand
je
dis ça ?
Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Olivier Brochard et je pense qu'effectivement la place de la psychiatrie, c'est dans l'hôpital général. Il faut absolument désenclaver l'hôpital psychiatrique et que nos malades, de ce fait-là, puissent avoir accès à toute la palette des soins somatiques. Ça va de l'urgentiste à la radio, à l'imagerie, aux spécialistes, à l'endocrino, au diabétologue, etc., qui doit être sur place. Comme ça, ça oblige les médecins à se connaître, à dialoguer entre eux. Et qui en tire les bénéfices, c'est les malades. Donc je pense qu'effectivement, cette idée de mettre la psychiatrie à l'hôpital général, c'est quelque chose de tout à fait défendable.
Alors docteur, je vais vous poser une question. Peut-on guérir la schizophrénie complètement à 100% par exemple ? Complètement.
Alors ça, on rentre dans un autre domaine. Guérir, probablement pas, mais on peut obtenir des rémissions à 100% de la schizophrénie. Maintenant, on pense qu'il est possible d'aller vers la rémission symptomatique et on souhaiterait aller encore plus loin, c'est-à-dire à la rémission fonctionnelle qui permette au patient de fonctionner normalement, d'avoir une vie normale à l'extérieur. Le plus important, c'est pas de savoir si on est encore schizophrène ou pas. Le plus important, c'est de savoir si on fonctionne normalement ou pas. Et c'est ça qui doit être l'objectif de travail des psychiatres et des médecins.
Merci bien.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui reprennent votre situation ?
Vous voulez dire mon...
Et donc études, oui.
Des gens qui veulent devenir psychiatres ?
Oui.
Oui, heureusement. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui sont intéressés par la psychiatrie. Et vous savez, je pense que la faculté de Lille, c'est celle qui forme le plus de jeunes internes en psychiatrie. Et donc ça, c'est une chance pour la région. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à les garder dans la région. Parce que quand un Marseillais est reçu au concours de l'internat à Lille, il a une très très bonne formation à Lille, hein, c'est l'une des meilleures facultés de France, mais il a envie de repartir au soleil à Marseille une fois qu'il a fini. À l'inverse, quand un Lillois est reçu à Marseille, il a envie de rester au soleil à Marseille et de ne pas revenir dans le Nord. Donc ça, c'est un vrai problème, et là, c'est un problème politique. Il faudra que les politiques trouvent une solution à ça, parce qu'on a besoin de psychiatres dans le Nord-Pas-de-Calais.
Et je voulais savoir, docteur, en tant que psychiatre, pensez-vous qu'il y ait des médicaments qui puissent régénérer le corps et l'esprit, trouver un équilibre entre le corps et l'esprit? Je ne sais pas si ça existe, ce genre de médicaments qui agissent à la fois sur le corps, enfin sur le corps et sur le cerveau, en fait.
Alors, je vous félicite pour cette excellente question qui est à la pointe de la recherche. Je vois que vous lisez beaucoup et que vous vous intéressez. Parce qu'effectivement, maintenant, on pense, ce qu'on ne savait pas il y a encore 10 ans, qu'il est possible de régénérer certaines régions neuronales. Mmh. Et prendre ces médicaments, comme en particulier les antipsychotiques atypiques, permet de refaire finalement des synapses, de recréer des neurones, etc. Donc c'est une très très bonne question. Il existe des médicaments comme ça. Oui.
Et justement, en régénérant le corps, le cerveau, le corps suit, également
Quand l'un va mieux, l'autre va mieux. Ouais. Mais c'est vrai dans les deux sens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si on arrive à mieux soigner les corps, les esprits iront mieux. Si on arrive à mieux soigner l'esprit, le corps ira mieux.
De toute façon, c'est le cerveau, l'organe le plus important, il me semble.
C'est la commande.
C'est la commande.
C'est la commande.
D'accord. Bruno ? Oui.
Moi, je reviens à votre itinéraire personnel, docteur, si ça ne vous dérange pas. Dans le sens, vous travaillez dans le public et le privé à la fois. Est-ce que ça pose problème? Que pensez-vous de parce qu'il paraîtrait qu'on manque de psychiatres dans le public.
On manque beaucoup de psychiatres dans le public et dans le privé aussi, hein, puisque par exemple l'agglomération de Lens où je travaille, qui compte 200 000 habitants, il y a un seul psychiatre privé qui s'appelle le docteur Dupont, qui est installé à Lens, et il vient d'avoir une autre installation toute récente hier, du docteur Debreu à Neuilly-Mines, mais deux psychiatres privés pour 200 000 habitants. Alors que quand vous regardez les villes comme Nice, si vous regardez les pages jaunes, vous êtes à 200, 300 psychiatres privés. Hein, donc il y a vraiment une différence d'offre de soins selon les régions de France qui est inacceptable. Hein. Pour revenir à votre question, moi je trouve que c'est intéressant de travailler à la fois dans le public et le privé parce que c'est deux métiers différents. Deux métiers différents. On n'a pas les mêmes malades, on n'a pas les mêmes façons de faire, on n'a pas les mêmes façons de travailler. Hein, pour caricaturer, pour que tout le monde comprenne bien, dans le public, malheureusement, on a souvent des gens qui n'ont pas très envie de se soigner, qui arrivent en âge d'été ou sous contrainte, etc. et qui sont pas très motivés pour rester à l'hôpital. À la clinique, c'est différent. Les gens sont capables d'attendre 3 semaines pour pouvoir y être admis et ils ont une demande qui est extrêmement forte vis-à-vis de la psychothérapie, ce qui n'existe pas dans le public. C'est vraiment deux métiers différents, deux façons de faire différentes.
Docteur, je voulais savoir, pensez-vous que le sport soit une bonne thérapie pour un malade psychique, qui est en meilleure santé qu'avant? Pensez-vous que c'est une bonne thérapie, que ça va dans le bon sens?
Alors le sport, c'est déjà une excellente thérapie pour tous ceux qui ne sont pas malades psychiques.
C'est vrai.
Puisque vous avez su que quand on fait du sport, quand on fait un effort physique important, on sécrète des endorphines, qui sont en quelque sorte les hormones internes du plaisir. Donc on se fait plaisir. C'est pour ça qu'on peut aussi exagérer et puis devenir dépendant du sport. À l'inverse, devenir addict au sport. Donc chez les malades psychiques, c'est à la fois une façon de reprendre possession de son corps, de reprendre confiance en soi, de réaliser que les compétences qu'on avait perdues, on peut les retrouver. Et finalement, ça va, par un effet de feedback positif sur l'esprit, se dire qu'on est encore capable de faire quelque chose de bien. Et on le voit, par exemple, pour les handicapés moteurs qui font les Jeux Olympiques. Là, on les a vus à Londres, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait. Donc, pourquoi pas imaginer qu'il y ait des disciplines qui pourraient être réservées aux handicapés psychiques? Et je pense que ça leur ferait énormément de bien parce que ça les valoriserait.
On va avancer un petit peu dans le débat, parce que je suppose que vous êtes attendu. Et je voulais savoir, docteur Basque, là on parle du corps et de la santé mentale, mais il y a aussi l'amour. On parle pas de cet amour, il y a aussi ce qu'on appelle vulgairement le sexe. Pensez-vous que pensez-vous du rapport amour, sexe et développement mental, enfin un mieux-être mental et du corps? Pensez-vous que qu'est-ce que vous en pensez?
C'est encore une très très bonne question. Je pense que la sexualité fait partie d'une vie normale. Donc il faut absolument que les gens qui souffrent de troubles psychiques puissent trouver une sexualité normale. Et ça passe certainement par aller mieux au niveau psychique et au niveau corporel. Donc si on arrive à améliorer les deux, la sexualité va s'améliorer aussi. On ne peut pas, nous les médecins, laisser ça de côté. Il faut qu'on apprenne à poser aux questions, les questions aux patients en disant comment ça va votre sexualité, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire. Quant à l'amour, l'amour c'est tellement magique que c'est pas des médicaments qui peuvent le provoquer. Non. L'amour ça arrive ou ça arrive pas.
Il y en a qui tombent, hein.
Il y en a qui tombent tout le temps amoureux, il y en a qui tombent jamais amoureux. Hein. Donc bien sûr, c'est un cadeau du ciel quand ça tombe.
Et j'ai l'impression que l'amour, ce qu'on appelle vulgairement le sexe, est délaissé de côté un petit peu en médecine. C'est un petit peu le parent pauvre de la médecine. Bon, il y a la sexologie, etc.
On est issu d'une éducation judéo-chrétienne qui fait que l'amour, c'est quelque chose dont on parle peu. Enfin, du moins, le sexe...
C'est péché.
Ça reste péché dans l'imaginaire de tout le monde, je pense. Donc, là, il faut vraiment que les médecins se dégagent de ça et arrivent à en parler, oui. Bien sûr.
Et il faudrait que les patients puissent en parler. J'ai l'impression que beaucoup de patients sont bloqués. Et il y a beaucoup de patients qui prennent des médicaments psychiques et qui, et vous savez mieux que moi que ça aboutit à un manque d'éjaculation, de fertilité au lieu des fertilités.
Absolument.
Et ça, les patients n'osent pas en parler. Pourquoi?
Je pense pour les mêmes raisons. Parce qu'ils sont pudiques et les médecins aussi. Mais il faut que tout le monde arrive à dépasser ça et à en parler, quoi. À partir du moment où un patient dit « Docteur, j'ai un problème de sexualité, je veux qu'on en parle et je veux qu'on trouve une solution », le médecin, il peut plus se défiler, quoi. Hein? Il peut plus dire « Écoutez, ça n'a pas d'importance, on laisse votre traitement comme ça puisque vous allez bien ». C'est pas vrai, il va pas bien puisqu'il veut de la sexualité. Donc il y a quelque chose à changer. Et donc ça, si on n'arrive pas à mettre ça sur la table, il faut que ça vienne des deux côtés, quoi. Il faut que les médecins acceptent d'en parler, il faut que les patients acceptent de poser les bonnes questions.
D'accord, je vous remercie, docteur. Merci.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Nous accueillons maintenant le docteur
Charel Claire.
Vous avez cité aujourd'hui la relation du corps et de l'esprit, enfin ce qu'on appelle le psychique et le physique. Mm-hmm. Ça vous intéressait ce colloque par rapport à ça?
Ça fait 4 ans que je suis dans la région, ça fait 3 ans que je travaille à la Fédération de Recherche en Santé Mentale, donc ça fait 3 ans que je suis sur ce projet d'enquête de mortalité chez les patients qui souffrent de troubles psychiatriques, rechercher les raisons, les motifs qui entraînent en fait un tel taux de mortalité chez les patients souffrant de problèmes psychiques.
Oui, par rapport à ça, j'ai Tar qui va poser une question.
Bonjour madame. Bonjour. Je voulais savoir si c'était vrai ce qu'on disait, que les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques meurent plus tôt que les autres personnes. C'est vrai ou c'est faux?
Alors, ce qu'on constate dans la revue de la littérature, qui est décrit depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui, effectivement, les personnes qui souffrent de maladies mentales décèdent plus tôt que la population générale, et notamment ceux qui souffrent de pathologies psychiatriques chroniques, hein, qui ont une espérance de vie diminuée à peu près d'une vingtaine d'années.
Vingtaine d'années, quand même.
Ouais.
Voilà.
Alors moi, je voulais savoir, docteur, vous avez constaté des choses, mais pourquoi justement y a-t-il cette mortalité? Est-ce que c'est le traitement qui fait que le malade va mourir plus jeune? Est-ce que c'est le fait de ne pas entretenir son corps? C'est d'oublier son corps, son esprit. Quelles sont les causes, si vous pouvez?
Les causes sont probablement multifactorielles. Alors, on parle de la pathologie. Alors, il y a certaines pathologies psychiatriques qu'entraînent des troubles, on dit cognitifs, au niveau de la mémoire, au niveau de l'organisation, donc qui empêchent de s'organiser dans la vie, de trouver de la motivation, donc de faire du sport, de bien manger, de bien dormir. Hein, donc, ce qui concerne l'hygiène de vie, il y a aussi les traitements. Les traitements, moi je dis qu'ils ont quand même amélioré l'évolution des patients. Voilà, il y a des choses qu'on décrivait dans la littérature avant les années 50, avant l'arrivée des neuroleptiques, qu'on ne décrit plus maintenant. Les traitements, c'est sûr qu'ils ont des effets secondaires. On doit surveiller effectivement tous les patients pour lesquels on met des traitements en place. Mais les traitements ont permis aussi de faire sortir les patients de l'hôpital psychiatrique.
Vous avez fait une étude, vous avez fait un bilan. Et que préconisez-vous pour allonger ce fameux taux de vie, cette espérance de vie? Est-ce qu'il y a une recette miracle, une hygiène de vie à adopter en tant que psychiatre, professionnel de la santé? Que préconisez-vous pour allonger l'espérance de vie? Est-ce qu'on peut faire des choses pour améliorer ça?
Je pense qu'il y a des choses qui, depuis plusieurs années, se mettent en place. Et ce qui importe aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir estimer, avoir des chiffres pour voir si tout ce qu'on met en place, ça marche ou non. Parce que finalement, on constate que depuis plus de 20 ans, on n'a pas de données de l'évolution de la mortalité en psychiatrie en France. Donc, on constate bien qu'on met des choses en place, que l'évolution de la psychiatrie, elle s'ouvre quand même vers des soins, en tout cas, on tente vers des soins de meilleure qualité ou une meilleure cohérence dans la prise en charge. Après, je pense que c'est important de pouvoir évaluer ce qu'on met en place et voir aussi avec le temps, est-ce que on continue à s'améliorer ou non, pour savoir dans quel sens on va aussi. Si on chiffre pas, il faut. On ne sait pas ce qu'on met en place.
D'accord. Eh ben on vous remercie, docteur. Merci.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Bon appétit.
Au revoir. Bon appétit.
Et bon manger de la soupe.
Merci.
Les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.